Le plus excellent est passé. Le culte rendu à Dieu. Que nos cœurs brillent devant lui de toute la gloire de sa personne. Et qu'il soit glorifié comme il est digne de l'être par tous nos cœurs, mes chers amis. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Merci de prier pour ce faible frère que je suis. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Ce que je me suis proposé de vous dire en quelques mots, Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Et vous serez mes témoins. Deux repères sur lesquels je voudrais insister un peu. Et c'est avec une grande joie, mes amis, que nous nous retrouvons dans ce que l'on appelle souvent la maison du Seigneur. Et dans sa présence, parce qu'il nous a précédés. Il était là avant nous. Avec joie donc, mais avec cette sainte crainte, comme créature, comme mortel devant Dieu, dit un cantique, mais bien-aimé du Père, on peut le rappeler aussi, nous sommes de bien-aimés enfants de Dieu. Et c'est en tremblant qu'on peut prendre la parole dans la présence du Seigneur, parce que il est ce Dieu devant lequel nous aurons à comparaître un jour, tous. Et toutes les paroles que nous avons dites nous seront rappelées. Fais attention à ce que tu dis, Michel. C'est important. Un ambassadeur, c'est une personne qui représente son pays dans un pays étranger. Pour faire connaître les valeurs de son propre pays et les différents domaines dans un but d'enrichissement commun. On reçoit aussi l'équipement du Seigneur pour être ses ambassadeurs qu'il demande que nous soyons. Il s'agit ici d'être ambassadeur pour Christ, envoyé du Père. Une mission qui est confiée par notre Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20, d'où est issu ce passage. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, encourage par notre moyen. Nous supplions pour Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et donc, ce caractère que nous avons à représenter sur cette terre, c'est d'encourager les plusieurs que nous rencontrons, que nous côtoyons chaque jour, d'être réconciliés avec Dieu. C'est ça l'ambassadeur que Paul annonce aux Corinthiens et par ricochet nous annonce à nous. Le but divin comme ambassadeur est donc cela. Encourager d'autres à être réconciliés avec Dieu. Et à premier Noël, il a été écrit, il a été dit dans l'Évangile, un sauveur vous est né. Je vous annonce ce grand sujet de joie. Un sauveur vous est né. Et un sauveur, qu'est-ce que ça fait? Ça sauve. Ça sauve de quoi? Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Moi en particulier, vous aussi. Pour la plupart en tout cas. Dans un monde aussi incertain que celui, aussi troublé que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, mes chers amis, ce rôle est fondamental. Parce que aujourd'hui, le Seigneur sauve. Demain, il peut être le juge de ceux qui ne l'ont pas reçu ou qui ne l'ont pas voulu recevoir le pardon de Dieu. Comme ambassadeur, le Seigneur sait comment nous allons être reçus. Comment serons-nous reçus dans ce monde? Comme lui. Au début de l'évangile de Jean, il est dit, il est écrit qu'il vint chez lui, chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné ce droit d'être enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce qu'on imagine un peu la famille dans laquelle le Seigneur nous a placés? Quel honneur, quelle gloire que celle-là. Faire partie d'une telle famille. Et dans l'évangile de Luc, il nous a dit au chapitre 10, le Seigneur déclare, désigne 70 disciples, 70 disciples, qu'il envoie deux par deux devant lui dans toutes les villes où il devait passer par la suite. C'est dans ce même chapitre que le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des disciples dans sa moisson, des ouvriers. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est aussi une citation de l'Évangile. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous le jette, me le jette. Et il le jette celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. C'est quelques passages pour nous avertir à quoi il nous faut nous attendre. Mais sachons que notre Seigneur ouvre le chemin et prépare le terrain où il nous envoie, puisqu'il doit passer par la suite. Priez d'abord pour ceux que nous aimons. Ceux que nous avons à cœur d'amener à Christ, c'est-à-dire en particulier notre famille. Dieu lui-même, par son esprit, donne des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, des docteurs. Nous trouvons ce passage en Éphésiens 4, verset 11. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui forme. Mais que d'activités nous sont proposées. Certains de nos contemporains pourraient être sensibles à un témoignage personnel. Dire comment Dieu nous a cherchés et comment le Seigneur nous a trouvés. Un témoignage personnel. De lui-même, le Seigneur nous envoie en parallèle comme témoin. Une fonction qui est universelle, qui est valable pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'un témoin? C'est quelqu'un qui a vu un accident, un incident, quelque chose de particulier qui arrive dans la vie. Et donc, simplement, je rappelle ce passage-là, nous disions à l'instant, ce que j'ai vécu. Comment j'ai rencontré le Seigneur. Comment il m'a cherché et comment il m'a trouvé. Ce qu'il m'a fait pour moi. Ce qu'il a pardonné. Toutes mes fautes. Il m'a pardonné toutes mes fautes. C'est un verset de Colossiens. Et c'est ça qui m'a bouleversé. Projeté, pour ainsi dire, dans les bras du Seigneur et me dire merci Seigneur, mais avant pardon, parce que toutes mes folies, toutes mes fautes, toutes mes bêtises, tous mes péchés, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup de dire encore aujourd'hui, les péchés, tous mes péchés, ça a été dit, ont été pardonnés. Et encore aujourd'hui, le Seigneur pardonne surabondamment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui demander seulement, prononcer ces deux mots, pardon, Seigneur. Il le fait, parce qu'il est fidèle. Et il a dit que c'était le moyen pour retrouver un lien avec lui, une vraie unité avec notre Seigneur bien-aimé. Et alors, la paix la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous dit un verset, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. N'avons-nous pas de multiples raisons de nous réjouir d'avoir un tel Sauveur, un tel Dieu? Quel Sauveur merveilleux je possède! Il s'est sacrifié pour moi, dit un cher cantique, que nous aimons dire et répéter. C'était le seul moyen de salut. Jésus a subi le jugement à ma place. C'est à ce moment précisément que l'Esprit de Dieu t'accompagne lorsque tu es témoin pour Christ et il t'aide. Le Seigneur voudrait que l'on sache ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait de toi. Ce qu'il a fait, ce qu'il est lui-même. Le Sauveur admirable, et Jean 5, 24 nous dit ceci, « en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Quelle déclaration, mes amis, pour nos âmes troublées. C'est un texte que nous pouvons partager avec des amis que nous rencontrons. Pas besoin d'être évangéliste, à ce moment-là, tu le deviens. Et qui sait? C'est peut-être le point de départ du missionnaire que le Seigneur recherche ou veut pour toi. C'est ainsi que la plupart des grands serviteurs de Dieu le sont devenus. Leur cœur était tellement rempli d'amour, de joie, une vie tellement transformée qu'ils n'ont plus jamais désiré faire autre chose que d'être des témoins pour Christ. Et le Seigneur les a tellement comblés de richesses qu'ils ont été à l'origine d'une moisson abondante. Ne se laisse pas envier aussi pour toi. Ayant une si grande nuée de témoins qui nous entoure, nous dit l'Épître aux Hébreux, nous sommes appelés à fixer les yeux sur Jésus, le chef de notre foi. C'est lui qui nous précède, c'est lui que nous suivons, et c'est lui que nous voulons faire connaître. Et aussi, Dieu nous a précédés dans cette démarche, son esprit sera là pour convaincre avec puissance. C'est le rôle de l'Esprit Saint, convaincre puissamment. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, c'est des Juifs que le Seigneur s'adresse là, et jusqu'au bout de la terre, pas pour nous, pour nous aussi, jusqu'au bout de la terre. Ils étaient trop peu pour aller jusqu'au bout de la terre. Le Seigneur a compté sur son Église, je crois, pour faire ce travail d'amour auprès de nos contemporains qui ont tellement besoin de paix, de repos, d'avenir, de repères. Un verset de Chronique nous dit « Nos jours sont comme l'ombre ». Au point où j'en suis, je vous promets, mes amis, que je réalise ça tellement bien. Ils sont comme l'ombre, il n'y a aucune espérance de demeurer ici-bas. Mais nous, chrétiens, nous avons une espérance vivante. Nous avons une espérance vivante. Comme témoin, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle que nous sommes appelés à présenter. Deux mots seulement suffisent, nous le disions déjà. Pardon, Seigneur. Dirions déjà ça à nos amis que nous rencontrons. Dites pardon, Seigneur, et vous verrez que votre vie va être changée, transformée, modifiée, de contemplant. Le résultat est immédiat. La paix de Dieu envahit le cœur et inonde la vie entière de celui qui se repent. Et c'est ce qui se passe maintenant, particulièrement. Et ils sont attentifs, les Juifs, quand des ravaleurs disent, écoutez, faites Yeshuvah. Faites Yeshuvah, c'est-à-dire repentez-vous, c'est-à-dire que votre regard se tourne uniquement vers le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu qui sauve, le Dieu qui va nous recevoir tout à l'heure. Faites Teshuvah, retenez ce mot, c'est un mot hébreu qui veut dire la même chose que se repentir. C'est ce que nous avons à faire, c'est ce que j'ai à faire, chaque instant du jour. Et pourquoi avertir notre prochain? Parce que connaissant combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes. Ce sont des mots très forts qui nous sont proposés dans 2 Corinthiens 5, 11. Quel bouleversement actuel! Qui faut-il croire? Les politiques? Les syndicats? L'insécurité est partout. La violence, la misère. Des valeurs qui sont les valeurs constitutionnelles et qui devaient être ce que ceux qui les garantissent, c'est-à-dire les haut placés, devaient respecter pour nous les communiquer. Donc ce chrétien suggère que, vous savez, nous n'avons pas besoin d'importuner nos semblables, nos proches. Ils le savent. Ils savent aussi qu'il y a un sauveur qui est venu pour les sauver. Permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord. Et tout de même ma vie. Et rappelez ce passage de l'épître de Paul à Timothée, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, exhorte, reprend en toute longanimité et doctrine. C'est notre responsabilité. On vous demandera aussi, avez-vous des preuves de l'existence de Dieu? Vous savez, jetez un œil sur YouTube et vous en aurez autant que vous voulez des preuves de l'existence de Dieu. Au point que maintenant, je crois que plus personne ne peut douter de son existence, à part quelques personnes que je pourrais qualifier, permettez-moi cette expression, d'attarder. Ils s'attardent à ne pas vouloir reconnaître la grandeur de ce qu'il y a de plus élevé dans la création de Dieu, c'est-à-dire l'homme lui-même, avec toute sa complexité. Et si c'est ce qui a créé de visible est là pour nous convaincre jusqu'au fond de notre âme, que dire de l'invisible? Et le Seigneur nous donne la faculté de sonder quelque part ce qui ne se voit pas, ne fût-ce que la grandeur de Dieu dans le cosmos. Et bien souvent, il y a un cher croyant qui nous ont invités à considérer l'infini. Et la science ne sait pas tout. La science n'explique pas tout. J'ai pensé dans les détails, mais il y a le mur de Planck, c'est-à-dire à un endroit de la création où les scientifiques peuvent vous décrire tout ce qui s'est passé après. Ce mur de Planck, c'est un physicien allemand. Et à partir de 1 sur 10 moins 43 secondes, la science peut tout expliquer après le Big Bang. Mais avant, impossible. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Et pourtant, les scientifiques, jusqu'à peu, s'imaginaient qu'ils allaient pouvoir se passer de Dieu. D'ailleurs, une parole célèbre de Lavoisier, celui grand chimiste des temps passés, qui parlait des découvertes de la science à Napoléon. Napoléon lui a demandé, mais et Dieu dans tout cela? Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Quelle arrogance! Et je voudrais citer aussi une réflexion de Lydia de Jager, qui est une contemporaine et qui discutait avec un grand scientifique contemporain des choses du Seigneur. Et elle dit ceci, la science a ses limites. La science est un vaste musée des hypothèses abandonnées. Un vaste musée d'hypothèses abandonnées. Voilà. En second lieu, comme preuve de l'existence de notre Dieu, il y a la Bible. Ah, mais écoutez, c'est dépassé la Bible. Et pourtant, c'est le best-seller de nos temps. C'est ce que les hommes lisent le plus maintenant, par milliards d'exemplaires. Ah, si, sans doute, il y aura des saints Thomas. Moi, je ne crois que ce que je vois. C'est facile à réfuter, ça. Les ondes radio, tu les vois? Elles existent, quand même. Des preuves scientifiques attestant l'existence d'une intelligence exceptionnelle regorgent dans les médias. Si vraiment on veut connaître l'existence d'un Dieu, ça devient de plus en plus évident, de plus en plus facile. Notre Dieu se révèle à quiconque le recherche réellement. Et notre témoignage y ajoute. Mais il est dit, vous avez de la tribulation dans le monde parce qu'il y aura des épreuves, mes amis. L'ennemi n'est pas content quand nous rendons témoignage de la grâce que le Seigneur a eue pour moi. Il n'est pas content. Vous aurez de la tribulation dans ce monde. Mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est un de nos cantiques aussi. Je ne pense qu'on va peut-être le chanter. Même si je suis fragile, dit un autre cantique, même si c'est difficile, je chanterai Dieu. Nous le passerons tout à l'heure. C'est si beau cantique. Toute ma vie, je le dirai qu'il a payé le prix. Toute ma vie, je le dirai. Que je ne vis que pour lui. Vous me permettrez de le rappeler tout à l'heure, chers amis. Et puis notre Dieu a une armée. Une armée pour combattre le bon combat de la foi et triompher par le bien, pour le bien, contre le mal. Et les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu, nous dit 2 Corinthiens 10, verset 4. Il nous a donné une bannière pour la déployer à cause de la vérité. Et cette bannière sur moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Si nous aimons notre prochain, si nous aimons nos enfants, petits-enfants, est-ce que nous n'aurons pas à cœur de leur dire, tu sais, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, ça fait presque 70 ans, tout a changé pour moi. Tout est changé. Ils le voient, mais il faut leur dire toutes les valeurs que nous avons découvertes dans la sainte parole de Dieu. Et pour terminer, pour achever ce propos, je vous le dirai. L'histoire de trois ambassadeurs pour Christ. Sundar Singh, par exemple, qui fut un ambassadeur de Christ en Chine. Il est né en 1889 et disparu en 1929. Il a vécu à peine une trentaine d'années, 40 ans. Il est d'origine indienne. Sa conversion en 1904, on l'appelait le Sadhu. Il a brûlé une Bible par haine du christianisme. Un soir de décembre, il décida de se suicider s'il ne trouvait pas la paix cette nuit-là. Vers 5 heures du matin, il vit une grande lumière et un visage qui le fixait avec amour. Il pensa qu'il était face à une divinité païenne. Il croyait en un Bouddha. Puis il entendit clairement en hindoustani, c'est sa langue maternelle, « Combien de temps encore veux-tu me persécuter? Je suis mort pour toi et j'ai donné ma vie pour te sauver. » Étrange coïncidence avec ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Sundar Singh comprit instantanément qu'il était en présence de Jésus de Nazareth et qu'il était bien vivant. il s'agenouilla et il adora. Comme conséquence, il avoua à son père, « Je suis devenu chrétien. » Celui-ci essaya évidemment de le faire changer d'avis sans succès. C'est un petit peu comme l'islam maintenant, si on se convertit au christianisme, on est banni non seulement de la société, mais de sa propre famille. On ne veut plus en entendre parler. Il fut banni de chez lui lors du dernier repas familial, on mit du poison dans ses aliments. Il parvint à rejoindre péniblement un campement de chrétiens où il s'effondra. Le médecin pensait être incapable de le sauver, mais Sundar Singh et beaucoup de chrétiens se mirent à prier et le lendemain, il était rétabli. Comme preuve que l'évangile de Marc en particulier, si vous mangez quelque chose de mortel, cela ne vous nuira point. Il y a d'autres exemples, je ne cite pas ici. En 1918, il élargit son champ de mission en partant pour la Birmanie, Singapour, la Chine et le Japon. En 1922, c'est la Grande-Bretagne qui visitait les États-Unis et l'Australie. Quel parcours! La France, l'Allemagne, la Suisse, dans tous ces pays, il tient des conférences d'évangélisation dans des églises de traditions différentes. Il se rendit aussi en Terre Sainte, en Israël. Il partit le 18 avril 1919 pour un dernier voyage d'évangélisation au Tibet. Il n'en reviendra pas. De nombreuses recherches seront faites. Deux missionnaires anglais suivront même sa trace, jusqu'à un col de 5000 mètres d'altitude, mais en vain. Sundar Singh, de son nom, disparaît ainsi à l'âge de 39 ans. Il était contemporain de Gandhi. Un deuxième, David Brainerd, peut-être moins connu, il était l'apôtre des Amérindiens. Il est tard. David Brainerd descend de son cheval et s'allonge par terre pour dormir. Avant de s'endormir, il prie le Seigneur. Sans qu'il le sache, des Amérindiens sont cachés derrière les arbres avec l'intention de le tuer. Mais intrigué d'entendre ce visage pâle implorer son Dieu et après l'avoir écouté prier à haute voix, il s'éloigne sans lui faire de mal. Ils sont stupéfaits de l'entendre demander à Dieu de sauver les hommes des Indiens. Le lendemain, Brainerd arrive dans un village indien. Il prêche l'évangile et certains pleurent en l'écoutant. En réponse à ses prières, les Indiens autorisent Brainerd à dormir chez eux. Avant et après chaque réunion d'évangélisation, ils prêchent avec tellement de compassion qu'ils l'écoutent avec une grande admiration. Alors, à cheval de village en village, Brainerd supplie le Seigneur de le remplir de sa puissance pour annoncer l'évangile. Pas des personnes à imiter. Parfois, des tribus entières renoncent à leur rite occulte après l'avoir écouté expliquer des textes bibliques. Dans son journal, le 33 novembre 1743, il écrit « Je viens de passer la journée dans la prière et le jeûne du matin au soir. » Ce qu'il faisait en privé, seul avec son Dieu, explique ce qu'il a pu accomplir en public devant les Indiens. David Brainerd est mort de la tuberculose à 29 ans. Une vie s'est remplie. Après 4 années de mouvement total dans l'évangélisation des Indiens, étonnant qu'en Inde, on a encore la connaissance aujourd'hui de l'existence d'un Dieu d'amour. Alors que sa vie touche à sa fin, il écrit à son frère, « Je te le dis maintenant, je sais que je vais mourir. Pour rien au monde, je n'aurais voulu vivre ma vie autrement. » Et enfin, Félix Neve, une anecdote particulière parce que dans les années 1990, nous avons eu le privilège d'accompagner une cinquantaine de jeunes dans les Hautes-Alpes à la suite de Félix Neve. Un frère avait eu cette idée de marcher sur les traces de Félix Neve pour annoncer l'évangile dans les Hautes-Alpes, bien des années après lui. Il était né le 8 octobre 1997 et décédé le 12 avril 29. Il avait à peine 32 ans. C'était l'apôtre des Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes où il s'efforcera de communiquer sa bouleversante découverte de l'Évangile aux descendants des Vaudois. Ces gens semblaient insensibles, mais il ne se lassa pas. Il fonde enfin une école normale destinée à fournir des instituteurs à tous les villages de la paroisse. Félix Ney va également s'attacher à permettre aux habitants des vallées d'améliorer leurs techniques agricoles. Vous voyez, on peut être utile dans bien des domaines. Il vit enfin le réveil arriver, les conversions se multiplier. Le Seigneur récompense de chers serviteurs de l'Évangile. Épuisé par le travail, il mourra à 34 ans. Ses dernières paroles furent « L'Évangile est vrai, vrai, vrai. » Une vie courte qui transfigura toute une région. Et en conclusion, mes amis, permettez-moi de rappeler quelque chose qui a été souvent rappelé ces derniers temps. C'est le fameux parfum que Marie versa aux pieds de Jésus. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est la figure d'un culte qui est rendu au Seigneur. Est-ce que nos cultes seraient comme ce parfum qui est répandu? Qu'est-ce que nous donnons au Seigneur? Cette femme, pour rappel, a donné un parfum qui valait plus d'une année de travail. Ça a été rappelé. Qu'est-ce que nous donnons au Seigneur? Qu'est-ce que je donne au Seigneur? Tout. Une simple anecdote, vous savez que nous avons plusieurs enfants, petits-enfants, et pour les taquiner, nous leur posons la question « Tu m'aimes ?» On a répondu « Oui ». Et on a ajouté « Combien ?» On a une petite fille qui nous a répondu « Tout ». Nous aimons le Seigneur. J'aime le Seigneur. Tout. Vous aimez le Seigneur? Tout. Allons passer ce beau cantique qui m'impressionne par le fait que l'interprète de ce chant, qui est une jeune femme, une jeune fille, on dirait qu'elle parle de son cœur. Elle dit « Je chanterai la gloire du Seigneur ». Et je veux attirer votre attention aussi sur ces deux dernières phrases. Je redirai toute ma vie que tu as payé le prix. Je redirai toute ma vie que je ne vis plus que pour lui.